Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour ce nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Actualité qui tournait un peu au ralenti depuis 2 semaines, mais qui nous offre tout de même quelques jolis concerts et récitals ces jours-ci. On en parle avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. On en parle aussi avec Robert Pénavert, son complice du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Et puis je vais vous proposer un entretien avec le pianiste Stéphane Delinca, directeur artistique de l'ensemble À bout de souffle, qui présente Piano en forme de poire, un spectacle musical dédié à Eric Satie du 28 au 30 mars à Toulouse, au Théâtre du Pavé. Il y monte sur scène avec la comédienne Muriel Benazeraf et le pianiste Stéphane Escoubet pour un hommage au compositeur dont nous commémorons le centenaire de la mort en 2025. Stéphane Delinca va nous donner en seconde partie d'émission quelques détails sur la conception de ce voyage théâtral et musical dans l'univers d'Eric Satie. Ce sera en seconde partie d'émission. En attendant, nous allons d'abord revenir comme d'habitude sur l'actualité la plus récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Robert et Serge, on ne se clique plus depuis quelques semaines.
En effet.
Nous allons revenir pour commencer sur 2 événements ayant eu lieu au Théâtre du Capitole. Nous les avions annoncés lors de nos précédentes émissions. Le 26 février, la soprano Véronique Jans, accompagnée par le pianiste Christophe Magnien, donnait La Voix humaine, cette œuvre assez singulière de Francis Poulenc. Robert y était bien sûr. Est-ce que vous avez apprécié la performance de la chanteuse? Parce que chanter La Voix humaine, c'est une vraie performance.
C'est un challenge, indiscutablement, d'autant qu'elle a été donnée dans des conditions un peu spéciales. Nous allons y revenir. Alors, Christophe Gristy vient d'offrir à son public l'un de ces moments de communion intime, intense avec l'art lyrique dont il a le secret. Cette représentation de La Voix humaine était programmée pour une seule soirée. La musique est de Francis Poulenc et le texte de Jean Cocteau. C'est une véritable tragédie lyrique, mais en petit format certes, mais il n'empêche qu'elle est d'une puissance émotionnelle rare. Et rares sont les sopranos qui surent, à mon avis, pleinement rendre tout le désarroi de cette femme abandonnée. Vous connaissez l'histoire, on en a parlé la semaine dernière sur cette antenne, elle est abandonnée par son amant sur un coup de fil. Et ce qui est absolument fondamental, nécessaire, c'est la parfaite maîtrise de la prosodie française, en effet, parce que le texte, évidemment, il est indispensable qu'on le comprenne. Donc, c'est une sorte de prérequis pour pouvoir chanter La Voix humaine. Il faut maîtriser parfaitement la langue française et savoir parfaitement la projeter également. Et à vrai dire, en invitant Véronique Jans, comme vous l'avez indiqué, Eric, Christophe Gristy a invité une habituée de cette partition. Ce n'est pas la première fois.
Non, elle l'a enregistrée d'ailleurs.
Et elle l'a enregistrée, exact. Elle l'a enregistrée.
Avec l'Orchestre National de Lille.
De Lille, voilà. Donc, il ne pouvait pas trouver, à mon avis, meilleur interprète à l'heure actuelle. Elle est reconnue d'ailleurs, on est bien d'accord, comme l'interprète de référence aujourd'hui. Hein. Et elle est arrivée vêtue d'une robe longue, grenat, légèrement lamée, magnifique. C'est une cantatrice, c'est une artiste magnifique.
C'est une belle femme en plus, donc oui, tout à fait.
Elle est merveilleuse. Mais elle est arrivée seule sur le plateau, puisqu'il n'y avait pas de mise en scène. Devant elle, un pupitre, derrière le piano. Et donc, elle a dû pallier cette absence de décor et de mise en scène. Et puis,
c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de téléphone.
Exact, il n'y a même pas de téléphone. Moi, j'imaginais au moins qu'elle allait arriver avec un téléphone portable. Hein. Ça aurait pu se faire.
Oui. Bon.
Mais non, pas du tout. Christophe Gristy a fait confiance.
Il lui a interdit le téléphone.
À la tragédienne. À la tragédienne innée.
Mais elle est tout à fait capable, effectivement, d'incarner ce rôle sans accessoire.
Je ne peux que vous répéter ce qu'écrivait le grand journaliste musical Bernard Gavotti dans le Figaro du 9 février 1959 en évoquant la création mondiale à l'Opéra Comique. Il disait à propos de Denise Duval qu'elle était seule dans sa chambre déserte, tournant comme une bête en cage dans la prison de son chagrin. C'est exactement cela que Véronique Jans nous a donné à voir. plus une interprétation intense, habitée, très émouvante, même sans lit, même sans téléphone, même sans mise en scène, elle a été somptueuse. Le spectacle a été suivi par un public, le Capitole était plein, mais enfin maintenant, ça devient habituel de le dire. Ce spectacle a été suivi dans un silence quasi religieux. Mais vraiment, c'est dire combien, premièrement, l'œuvre est d'une incroyable intensité. Deuxièmement, ce qu'a su faire Véronique Ojans est absolument magistral. Elle était accompagnée, donc vous l'avez dit, par le pianiste Christophe Magnien, qui lui a eu la rude tâche de projeter dans cette conversation dont nous n'entendons qu'une parole, puisqu'on n'entend pas l'ex-amant d'elle, comme on dit, puisqu'elle n'a pas de nom.
Oui, elle a pas de nom,
elle s'appelle elle, tout simplement, dans la partition. Et l'homme, on ne l'entend pas. Et lui avait la charge, dans la musique, de transmettre les échos de cette tragique séparation. Et c'était magnifique. Il y a eu, je ne sais plus, peut-être une quinzaine de rappels. Elle n'en revenait pas, même, je pense, Véronique Ojans. Elle n'en revenait pas. Une grande, grande soirée. Avec une grande dame.
Avec une grande artiste. Il ne faut pas avoir peur des mots lorsqu'on a affaire, effectivement, à des chanteuses de cette trempe, capables d'incarner ce rôle qui, encore une fois, c'est vraiment une performance, hein, seule sur scène,
oui, c'est
sans
une performance,
accessoires.
Oui.
Donc Véronique Ojans, nous l'avons dit, a enregistré La Voix Humaine avec l'Orchestre National de Lille il y a quelques années. On va donc pouvoir la réécouter, et ça va être dans le quatrième monologue. Hier soir, je me suis couché tout de suite.
Hier soir, je me suis couché tout de suite. Et comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non, personne à ne voir. Mais je me suis secouée. Marthe est venue, elle a déjeuné avec moi. J'ai fait des courses, je suis rentrée à la maison. J'ai... Quoi ? Très forte. J'ai beaucoup, beaucoup de courage. Après, je me suis habillée. Marthe est venue me prendre. Je rentre de chez elle. Elle a été parfaite. Elle en sait elle, mais elle ne l'est pas. Tu avais raison. Comme toujours, ma robe rose, mon chapeau noir. Oui, j'ai encore mon chapeau sur la tête. Et toi, tu rentres, tu es resté à la maison. Quel procès ! Ah oui.
Véronique Ojans chantait « Hier soir, je me suis couché tout de suite », quatrième monologue de La Voix humaine de Francis Poulenc, une œuvre qu'elle a donc donnée mercredi dernier au Théâtre du Capitole, accompagnée par le pianiste Christophe Magnien. Et au même endroit, le lendemain, il y avait un midi du Capitole, proposé par le contre-ténor franco-britannique William Shelton, accompagné au piano par Julien Leblanc, au programme des mélodies françaises et quelques autres grandes petites choses. Robert, vous étiez encore présent dans la salle et très impatient d'entendre ce jeune chanteur que vous aimez bien, je crois.
Alors, à vrai dire, je ne suis pas le seul à bien l'aimer. Et il faut dire que c'était la première participation d'un contre-ténor à Midi du Capitole. Cette série des Midi du Capitole connaît un succès depuis d'ailleurs sa création, il y a pas mal d'années, un succès éblouissant. Mais bon, pour la première fois, un contre-ténor, quelle allait être la réaction du public ? Eh bien, le Capitole était archi-comble. Alors en fait, cet incroyable succès, il n'est pas si incroyable que ça, puisqu'en fait, William Shelton commence à être connu à Toulouse, puisque non seulement il a fait partie de la création mondiale du Voyage d'automne Bruno Mantovani en début de saison 24-25, il jouait un rôle, Dieu sait qu'il ne pouvait pas passer inaperçu, c'était le rôle de Goebbels,
Goebbels.
En fait, Goebbels, et il chantait un rôle un peu moins exposé de Nireno dans les reprises de Jules César de Handel. Et donc, il a commencé par une série de mélodies françaises avec Reynaldo Hahn et ses Trois jours de vendange, Charles Gounod, Le banc de pierre, et Gabriel Fauré, Soir. Et ensuite, c'est le pianiste québécois, Julien Leblanc, qui a pris la relève. Ça a été magnifique également. Il a interprété la troisième estampe que Claude Debussy compose en 1903. C'est celle qui est intitulée « Jardin sous la pluie ». Un véritable ruissellement sonore qui nous a fait entendre. Et d'ailleurs, il a eu un énorme succès suite à ce morceau qui n'est pas très long d'ailleurs, extrêmement virtuose, puis surtout admirablement interprété. Suit une séquence opéra. William Shelton nous dit maintenant, contrairement à ce qu'il y a au programme, je vais chanter les trois airs d'opéra à la suite l'un de l'autre. Il a commencé un peu sur une autre partie de son arbre généalogique, puis c'est Benjamin Britten, et le songe d'une nuit d'été avec l'air d'Oberon qu'il a choisi, l'air le plus célèbre et qui s'appelle I Know a Bank. C'est un moment de magie absolument incroyable. Britten est au sommet de son talent, et dans cet air, William Shelton détaille les nombreux affects que Britten souhaitait, avec une délicatesse de ton et une musicalité absolument infinie. Nous passons ensuite au répertoire italien, Francesco Cavalli. Il a choisi un extrait de son opéra « Les amours d'Apollon et de Daphné », et plus particulièrement « L'air d'Apollon »,« Misero Apollo ». C'est un véritable lamento bouleversant qui traduit le désarroi du dieu soleil quand il s'aperçoit de la perte définitive de Daphné qui est alors changée en laurier. Et là, William Shelton, ici, s'est trouvé la largeur vocale nécessaire à ce lamento. Et ensuite, évidemment, ça ne pouvait pas être autrement, Georg Friedrich Händel et de la fête avaient l'air de Berta Rido, Dove sei, extrait de Rodelinda, qui va donc illustrer ici le plus britannique des compositeurs allemands. Et il fallait bien un moment de repos à William Shelton, et c'est le moment que choisit Julien Leblanc pour interpréter avec énormément de sensibilité un autre solo écrit en 1913 par la compositrice française Mel Bonis, intitulé Desdemona, une courte pièce qui fait 3 minutes et quelques, hein, mais qui n'est pas sans rappeler évidemment, puisque c'est le thème même, la fameuse chanson du sol de l'Othello, shakespearien autant que verdien. Voilà. Retour à la mélodie avec Camille Saint-Saëns, Lily Boulanger, Maurice Ravel avec le pan. Là, William Shelton s'est complètement déchaîné sur scène puisqu'il a imité le pan. Et en même temps, il imite vocalement aussi. Ouais,
hein. Heureusement.
et il imite physiquement aussi. Et il imite aussi les outrances aussi tapageuses qu'inutiles et pathétiques de l'animal, vous le savez. Ici, il attend une fiancée qui ne viendra pas.
Une fiancée qui s'appelle Léon.
Léon, voilà.
Bah, inévitablement. Alors, c'est sur un texte de Jules Renard, donc déjà vous imaginez l'esprit.
Il y avait de quoi faire, et là, William Shelton s'est complètement éclaté, mais vraiment au grand plaisir.
Ça
m'est
donné un cœur joie,
du public.
Il y a eu un bis.
Et alors, les rappels ont été plus qu'enthousiastes, et donc les artistes sont revenus deux fois. La première fois, c'est le printemps de Benjamin Godard. Et ensuite, quelque chose que je ne connaissais pas, c'est la mandoline d'Irène Polovsky. Mais bon, évidemment, ça n'a pas calmé le public du Capitole, mais malheureusement, le temps était venu de se quitter.
Et oui, c'est un midi du Capitole, c'est voilà. Pas la soirée, c'est
et,
pas pareil.
Et donc, encore un immense midi du Capitole.
Oui, puis William Shelton, on le reverra dans des opéras, et peut-être aussi dans des récitals, j'ai aucun doute là-dessus.
Mais il faut l'espérer. Hein.
Nous allons écouter encore une fois William Shelton, qui chante « Nous nous aimerons tant », mélodie composée par Lily Boulanger sur un poème de Francis Jammes. Il est accompagné ici par la pianiste Juliette Journeau.
Thank you.
William Shelton chantait « Nous nous aimerons tant », mélodie de Lily Boulanger, composée sur un poème de Francis Jammes, accompagnée par la pianiste Juliette Journeau. Alors avant de tourner cette page au Théâtre du Capitole, Robert, vous allez réannoncer un événement que nous avons déjà annoncé la semaine passée, le récital de Michael Folle.
Merci de me redonner la parole parce que c'est tout à fait exceptionnel avoir Michael Folle au Théâtre du Capitole pour une soirée de leaders de Franz Liszt et de Franz Schubert. Alors que cet homme achève une série de Valkyries absolument triomphale à la Scala de Milan, il fait un saut à Toulouse pour nous chanter quelque chose qui en définitive était très souvent chanté par les grands barytons wagnériens. Je pense à Hans Hotter, à Dietrich Fischer-Dieskau, Theo Hadan, Thomas Stewart, etc. Michael Folle fait partie de cette dynastie dont c'est vraiment à ne rater sous aucun prétexte. C'est une occasion unique, c'est la première fois qu'il vient à Toulouse. Espérons que ce n'est pas la dernière.
Ouais, avec Schubert donc et Liszt au programme. Oui. Et c'est le jeudi 6 mars à 20h au Théâtre du Capitole. Une occasion une fois de plus à ne pas manquer. Voilà pour cette belle parenthèse consacrée au chant dans cette émission. Nous retrouvons maintenant la musique instrumentale et plus précisément symphonique avec notre cher Orchestre National du Capitole qui était également en concert le jeudi 27 février mais à la Lograin sous la direction de Tarmo Peltokoski. Ils y ont accompagné la violoncelliste Sol Gabetta dans Shelomo, la rhapsodie hébraïque pour violoncelle et orchestre composée par Ernest Bloch. Vous étiez présents tous les deux à cette soirée, mais je vais d'abord donner la parole à Serge Ozy pour qu'il nous fasse part de ses impressions. Ça a encore été un très beau concert avec un très joli programme.
Ah oui, un très beau concert. Alors, on espérait revoir Tarmo Peltokoski puisqu'il avait dû annuler la direction du concert précédent pour des raisons de santé. Et donc, on l'a enfin revu. La Halle au Grain était archi-comble, évidemment. Et effectivement, il était assez pâle, hein, il faut le reconnaître. Hein. Mais dès qu'il dirige, il retrouve cet enthousiasme qui le caractérise. Et donc, avec un programme en trois étapes, en quelque sorte, avec trois œuvres très différentes les unes des autres. Et il ouvrait le concert avec le fameux prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, une approche de la musique française qu'on espérait lui voir pratiquer. Et donc, il a dirigé ce fameux prélude avec beaucoup de retenue et beaucoup de raffinement. En particulier, la flûte qui ouvre, évidemment, cette œuvre, elle sortait du silence. Donc on avait l'impression qu'elle était très loin, qu'elle se propageait donc vers nous. Et c'est Mélisande Daudet, la flûtiste solo de la soirée, qui a assuré ce rôle important. C'est un rôle important, la flûte, pour cette œuvre toute pleine de poésie et de sensibilité. Et que Tarmo Peltokoski a dirigé avec un soin particulier des crescendo et des décrescendo. Sa direction est caractérisée par ceci. Et puis ensuite, donc, nous avons vu arriver la violoncelliste Sol Gabetta, que l'on connaît bien à Toulouse. Et donc là, elle jouait, comme vous l'avez dit, le Shelomo, cette rhapsodie hébraïque pour violoncelle solo, qui est en fait un concerto pour violoncelle, en quelque sorte. Et là aussi, le dialogue entre l'orchestre et le violoncelle s'est avéré excellent. Alors, on pouvait craindre que l'orchestre, qui est très riche, l'orchestration est particulièrement riche, l'orchestration d'Ernest Bloch, couvre le violoncelle. Mais l'œuvre est tellement bien écrite, lorsque le violoncelle s'exprime, l'orchestre joue très, très piano, ne joue pas très fort. Et lorsqu'il donne toute sa voix, ben, le violoncelle s'interrompt, ne joue pas. Et donc, il y a eu de grandes envolées orchestrales avec en particulier un magnifique solo de hautbois. Il faut là aussi reféliciter le hautboïste Louis Seguin, qui est bien connu des habitués de la Lorrain, avec cette sonorité très chaleureuse du violoncelle de Sol Gabetta, qui devient vraiment une voix humaine hein, pendant toute cette exécution, avec des plaintes, des lamentations, mais aussi des révoltes qui sont suggérées par son jeu qui est très contrasté et très fort. Hein. Et donc elle a eu une véritable ovation à la fin de cette exécution, au point que la violoncelliste et le chef sont revenus pour jouer alors une œuvre qui est toujours une œuvre d'Ernest Bloch et qui est sous-titrée « Prière » et qui est la première des trois pièces intitulées par le compositeur « From Jewish Life », donc de la vie juive. Là, c'était aussi un grand moment d'émotion, plus de retenue, plus de méditation, vraiment un peu hors du temps. Donc ça, c'était la première partie. Et toute la seconde partie est consacrée à une œuvre que l'on entend quand même de temps en temps à Toulouse, la première symphonie dite « Titan » de Gustav Mahler, Et là, j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que Tarmo Peltokoski dirige tout en respectant parfaitement les sous-titres de Gustav Mahler. Parce qu'il a tout sous-titré, en particulier le premier mouvement, lentement, entraînant, comme un bruit de la nature, très tranquillement au début. Eh bien, c'est comme ça que ça a été dirigé. Donc, avec cette, là aussi, cette émergence du silence qui monte progressivement à la recherche d'une sorte de voix lumineuse qui éclaire, avec un final éclatant, tellement éclatant qu'il a suscité quelques applaudissements un peu intempestifs du public, mais qui ont été vite réprimés. Et puis le deuxième mouvement, puissant, agité, mais pas trop rapide, Dixit Mahler lui-même, donc avec certains éléments d'ironie qui introduisaient le chef d'orchestre. Alors le troisième mouvement, c'est important pour les musiciens, il s'ouvre, c'est assez rare, c'est même rarissime, par un solo de contrebasse. Un solo de contrebasse, c'est quand même rare dans les œuvres symphoniques, dont il faut féliciter le musicien, le soliste, qui a joué ça avec beaucoup de musicalité et d'intelligence. C'est le thème du Frère Jacques, Bruder Martin, en fait, en allemand, mais c'est le même thème que Frère Jacques. Et puis enfin, on a eu le grand accord cataclysmique qui ouvre le final, une véritable explosion qui va jusqu'au bout avec cette espèce de vigueur et d'intensité qu'il y a dans ce mouvement final qui rappelle ce qui était arrivé à Gustav Mahler quand il avait visité les États-Unis et qu'on l'avait amené auprès des chutes du Niagara et que devant le fracas des eaux, il avait déclamer enfin un fortissimo. Eh bien, c'était un peu ce que l'on a entendu ce soir-là. Un beau moment, un beau concert qui nous a fait plaisir pour de retrouver quand même Tarmo Peltokoski, qui a quand même été bien affecté par la grippe qui l'a assailli et qui a empêché de diriger le concert
ces dernières semaines. Comme nous avons déjà un temps un peu printanier à Toulouse, il me semble que Prélude à l'après-midi d'un faune est l'œuvre idéale pour célébrer le retour des beaux jours et la nature qui explose en ce moment. Je vous propose d'écouter le chef-d'œuvre de Claude Debussy dans une version de l'Orchestre National du Capitole, mais époque Michel Plasson, ce qui va nous donner l'occasion de réentendre la flûte du regretté François Laurent, décédé il y a un peu plus d'un an. Claude Debussy et son merveilleux prélude à l'après-midi d'un faune dans une version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson avec la si belle flûte de François Laurent, grand musicien dont nous saluons la mémoire au passage. Je voulais dire rapidement un mot sur le concert de lancement de la saison sur piano historique fondée par le pianiste François Henri à la Chapelle des Carmélites. Nous l'avions reçu il y a 3 semaines dans cette émission pour en parler. Ce concert a eu lieu samedi et il était donné par François-Henri lui-même, associé à la violoniste Gilonne Gobert, violon solo de l'ensemble Les Talents Lyriques qu'on a pu entendre dans la fosse du Théâtre du Capitole lors des représentations de Jules César. Le duo présentait un programme de sonates de George Pinto, de Beethoven, la sonate numéro 5, Le Printemps, on y revient, et de George Onslow. Au milieu de tout ça, François-Henri a interprété en solo l'impromptu numéro 3 de Franz Schubert. Il y a eu plusieurs découvertes lors de cette soirée, en tout cas en ce qui me concerne. D'abord, les œuvres de Pinto et Onslow, que je ne connaissais pas du tout, et je veux dire que celle du premier m'a beaucoup plu, notamment son mouvement lent, un adagio très émouvant, mais les principales découvertes furent avant tout le piano et le pianiste qu'on a entendu samedi. Gilonne Gobert, on la connaît déjà pour l'avoir écouté avec Les Talents Lyriques ou l'Orchestre des Passions de Montauban. C'est une excellente violoniste et elle l'a encore prouvé au Carmélite. Mais François-Henri, je ne l'avais jamais entendu en concert et ça a été une vraie révélation, que ce soit pour la clarté de ses sonorités ou la délicatesse, la finesse, la fluidité de son jeu. C'est à l'évidence un grand pianiste, un grand musicien, et je peux vous dire que tout le monde était unanime pour le dire à la fin de sa prestation, d'autant plus qu'il jouait sur un de ses fameux pianos historiques, en l'occurrence un Steichel de 1860, l'autre découverte de la soirée, instrument au son très doux, presque feutré, mais profond, subtil, qui donne une dimension très différente aux œuvres qui sont jouées dessus par rapport au piano moderne. Voilà qui lance donc parfaitement cette nouvelle saison de concerts à Toulouse, celle-ci présentant de nombreux intérêts, comme vous pouvez le constater. Je pense qu'elle va trouver rapidement sa place et son public dans le paysage musical local. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans cette émission, puisque les prochains concerts ont lieu les 5 et 6 avril. Je tenais à vous en parler, fin de cette première partie d'émission, petite virgule musicale, et l'on revient à l'antenne avec Serge Chosy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de la semaine, c'est d'abord le concert que propose la saison des Arts Renaissants ce jeudi 6 mars à 20h à l'église Saint-Jérôme de Toulouse. Elle accueille le gambiste italien Vittorio Guelmi avec Christophe Urbanes, un autre gambiste, et le luthiste Luca Pianca. Serge, vous allez nous présenter ce trio de musiciens et le programme qu'ils jouent, un programme très baroque français.
Oui, absolument. Et c'est un peu, on peut le dire, autour de Marin Marais, le plus célèbre des gambistes, hein, effectivement, des compositeurs gambistes. Vittorio Guelmi, en fait, il a beaucoup travaillé sur les documents originaux de Marin Marais, et donc il a pu établir une sorte de philosophie de la manière de jouer. Avec ses deux compères, ils vont donner des œuvres non seulement de Marin Marais, mais également de Monsieur de Sainte-Colombe, que l'on connaît.
Ceux qui ont vu le film Tous les matins du monde.
Tous les matins du monde.
Il y a le maître et l'élève. Hein.
Exactement. Et puis de Robert de Vizet, très grand luthiste hein, de l'époque.
Contemporain des deux premiers.
De la même époque. Donc ils donneront toute une série d'œuvres de ces trois compositeurs. Et puis, deux rendez-vous vont prolonger ce concert. Le vendredi 7 mars à 17h30, il y aura une conférence à la Bibliothèque d'études et du patrimoine. Et les vendredis et samedis 7 et 8 mars, des masterclass de Vittorio Guelmi lui-même au Conservatoire de Toulouse, évidemment réservé aux élèves du département de musique du Conservatoire.
Et pour vous faire découvrir le beau son de la viole de gambe de Vittorio Guelmi, le voici dans un extrait du livre 4 des pièces de viol de Marin Marais, Badinage. Il est accompagné par le luthiste Luca Pianca. Thank you. Badinage, extrait du livre 4 des pièces de viol de Maramarais, joué par Vittorio Guglielmi, accompagné au luth par Luca Pianca. Vous pouvez donc les retrouver tous les deux avec le gambiste Christophe Urbanetz ce jeudi 6 mars à 20h à l'église Saint-Jérôme dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Et puis il va falloir faire un choix parce que le même soir, donc, il y a Michael Folle au Théâtre du Capitole à la même heure et à la même heure aussi dans la même ville à l'Instituto Cervantes. Il y a également un concert donné par l'Orchestre de Chambre de Toulouse qui accompagne la soprano Anaïs Constant. Concert dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, Serge, avec un programme parfaitement raccord avec le thème de cette journée puisqu'on n'y trouve que des compositrices.
Exactement. Alors, ça n'est pas l'Orchestre de Chambre au complet, c'est le quintet de l'Orchestre de Chambre.
Oui, enfin, ce sont des musiciens de l'Orchestre de Chambre.
Oui, absolument, tous. Hein. Il y a Audrey Dupont, Anna Sanchez, Carlos Vizcaíno, que l'on connaît.
C'est l'administrateur et l'altiste.
Anne Gourier et Nora Muñoz. Et donc, tout le programme est un programme d'œuvres de compositrices avec Fanny Mendelssohn, Nadia Boulanger, Graziane Finzi, Maria de Pablos, Adèle Hugo, Germaine Taillefer, compositrice que l'on n'a pas si souvent l'occasion d'entendre. Concert le jeudi 6 mars à 20h à l'Instituto Cervantes de Toulouse.
Et puis maintenant, on passe au samedi 8 mars avec une autre jeune chanteuse issue de la formation musicale toulousaine qui est en concert dans sa ville de naissance, la mezzo-soprano Juliette May. Révélation dans la catégorie artiste lyrique aux Victoires de la musique classique l'an passé. Elle se produit à 16h à l'amphithéâtre d'Espax de l'Université Toulouse-Capitole, accompagnée par l'ensemble orchestral Pierre de Fermat sous la direction de Paul Milcher. L'entrée est gratuite, il faut le préciser,
oui,
pour ce concert de gala qui fête l'opéra et ses grands compositeurs. Que savez-vous du programme que va chanter Juliette May, Serge?
On ne connaît que les compositeurs, hein, puisqu'il y aura du Bizet, mais il y aura du Boieldieu et d'autres, donc, des compositeurs pour la voix, puisque cette rencontre donc réunit l'ensemble et Juliette May, qui a vraiment un très beau parcours. Elle a été consacrée par les Voix Nouvelles 2023, et ainsi que la 11e Académie du Jardin des Voix, placée sous la direction de William Christie tout de même.
Elle est bien lancée dans la carrière, Juliette May.
Et puis, cette rencontre est également donnée sous le parrainage de Christophe Grissi, quelqu'un qui s'intéresse à la voix et au style et aux interprétations de Juliette May.
Dernier événement à vous annoncer cette semaine, dimanche 9 mars à 17h au Casino Barrière de Toulouse. Le Pink City Orchestra donne son programme Les Étoiles du Cinéma. Nous avions reçu Anna Ramad et Julien Cassarino, les deux chanteurs de l'orchestre, il y a 2 mois dans cette émission. Il s'agit d'un concert de musique de film, Serge, arrangé, réorchestré par quelques-uns des musiciens du Pink City Orchestra.
Exactement, puisque le Pink City Orchestra, c'est en fait un collectif de musiciens et qui propose en fait des véritables spectacles musicaux qui associent des genres complémentaires variés comme le jazz, la pop, la musique classique, avec deux interventions programmées puisque le jeudi 6 mars à 10h au Bascala de Bruguières, le Pink City Orchestra présentera une matinée scolaire à l'intention des jeunes élèves et puis le tout public est convié le dimanche 9 mars à 17h pour ce tout nouveau spectacle original, Les Étoiles du Cinéma, avec 25 artistes sur scène, musiciens, danseurs, chanteurs, avec les plus grands chefs-d'œuvre du 7e art qui seront abordés.
Il y a 24 extraits de bandes originales. Alors, il y a les plus grands compositeurs du genre, Maurice Jarre, Vladimir Cosma, François de Roubaix, John Barry, John Williams, évidemment Nino Rota, Ennio Morricone, Bernard Herrmann. Ils y sont tous. Voici un extrait du programme des Étoiles du Cinéma, accompagné par les musiciens du Pink City Orchestra. Anna Ramad et Julien Cassarino chantent un grand classique de Michel Legrand, extrait de la bande originale du film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg. Vous la connaissez tous, Je ne pourrai jamais vivre sans toi.
Quelques jours, je vis dans le silence des quatre murs de notre amour.
Depuis ton départ, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour.
Je ne vois plus personne, j'ai fait le vide autour de moi.
Je ne comprends plus rien parce que
J'ai renoncé à tout parce que je n'ai plus d'illusions
de notre amour. Écoute la chanson.
Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi.
Je ne pourrai pas, ne perds pas, j'en mourrai.
Un instant sans toi,
et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas.
Mon amour, je t'attends.
Je ne pourrai jamais vivre sans toi, la célèbre chanson des Parapluies de Cherbourg, composée par Michel Legrand sur des paroles de Jacques Demy, dans la version du Pink City Orchestra et chantée donc par Anna Ramad et Julien Casarino. Le Pink City Orchestra donne son programme Les Étoiles du Cinéma le dimanche 9 mars à 17h au Casino Barrière de Toulouse. Et puis enfin, comme je vous l'ai annoncé au début de l'émission, je vais vous proposer une interview du pianiste Stéphane Delinca, directeur artistique de l'ensemble À bout de souffle, qui donne Piano en forme de poire, un spectacle musical dédié à Eric Satie du 28 au 30 mars au Théâtre du Pavé. On écoute Stéphane Delinca nous présenter cette création. Stéphane Delinca, bonjour. Vous présentez au Théâtre du Pavé du 28 au 30 mars Piano en forme de poire, une création inspirée de l'œuvre et de l'univers d'Eric Satie. Vous allez œuvrer vous-même au piano aux côtés d'un autre Stéphane, le pianiste Stéphane Escoubet, et de la comédienne Muriel Benazeraf, qui signe la mise en scène de ce spectacle. Nous commémorons en 2025 un anniversaire Ravel, mais aussi le centenaire de la mort d'Eric Satie. J'ai dans l'idée toutefois qu'il n'y a pas que cet événement à l'origine de votre création. Il y a certainement aussi une véritable passion pour l'artiste et l'homme qui était Satie.
Tout à fait. Merci Eric pour l'invitation. Oui, on est très très heureux de présenter ce spectacle sur Eric Satie, Piano en forme de poire. Une sorte de biographie, on va dire, musicalisée. L'idée est de parler d'éléments biographiques, puisqu'il n'est pas question de faire une biographie exhaustive de la vie de Satie, mais de comprendre un petit peu mieux qui était l'homme et de la relier, bien sûr, et de faire découvrir, faire redécouvrir sa musique pour piano, qui est fantastique. Plus on la travaille et plus on rentre dans cette musique et plus on se régale, Stéphane et moi, soit la musique pour quatre mains, la musique pour deux mains.
C'est une passion ancienne pour vous, Satie. Est-ce qu'il y avait déjà eu un spectacle ou des concerts autour de la musique, de l'œuvre de Satie? Peut-être déjà avec Stéphane Escoubet d'ailleurs.
Oui, tout à fait. En fait, avec Stéphane, on se connaît depuis très longtemps, on est à l'université ensemble et on avait déchiffré donc du répertoire de Satie qui nous plaisait beaucoup. Il nous est arrivé de le donner en concert, notamment les trois morceaux en forme de poire, il y a déjà quelques années. Et puis voilà, il y a je crois 2 ans, j'ai proposé à Stéphane qu'on aille un petit peu plus loin et peut-être qu'on en fasse un spectacle et qu'on invite la comédienne Muriel Benazeraf à nous rejoindre dans ce projet. Moi, j'aime toujours, comme vous le savez, avec la compagnie À bout de souffle, que la musique soit toujours en jeu, en scène, et que la musique et théâtre ne font qu'un. Du coup, d'aller plus loin et de proposer de travailler sur aussi les écrits d'Eric Satie qu'on connaît moins, pour mieux le connaître.
Quand on parle de Satie, on entend souvent des adjectifs comme iconoclaste, fantasque, protéiforme, loufoque. Vous, votre Satie, quels seraient les adjectifs que vous utiliseriez pour le décrire, le désigner?
Déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ces adjectifs. En effet, c'est un précurseur. C'est un novateur. Il modifie complètement les codes, en fait, avec cette... Alors, c'est le groupe des six se réclamait, en fait, de la...
Des c'était, héritiers... le parrain, c'était le parrain des héritiers, du groupe des six, côté musical, en tout cas.
Complètement.
Plutôt étant le parrain littéraire.
Oui, oui, complètement. Et ce qui est étonnant, c'est à quel point lui, à la fois, savait qu'il faisait quelque chose d'absolument novateur et dont il était très fier, mais en même temps, il avait une très, très faible estime de lui. C'est pour cette raison qu'il a repris des cours de composition à l'âge de 40 ans. Il est rentré à la Schola Cantorum. Et alors, après, ses compositions ont changé, ont évolué vers d'autres dans un style assez différent après les années 1910. Mais alors le premier Satie, c'est presque le Satie qui est le plus écouté encore aujourd'hui et le plus connu, c'est par exemple les Gymnopédies, les Gnossiennes. Ça fait partie des premières compositions. C'est incroyable. Comme tout était en germe de ce qui va faire la musique du XXe siècle, et à la fin de sa vie, il est aussi précurseur de la musique répétitive, puisque John Cage s'en réclamera lui aussi. En fait, il est extrêmement central, pourtant avec une production qui est relativement, en nombre en tout cas, qui est assez réduite. En quantité, on va dire, assez réduite. Mais on sait très bien que c'est ça qui compte.
Oui, alors effectivement, revendiqué comme une influence importante pour eux par des compositeurs comme John Cage et puis les minimalistes américains, Philip Glass, Steve Reich, Copland et toute cette bande. Mm-hmm. Mais vous avez abordé un sujet délicat, c'est que pour beaucoup de musiciens, je ne parle même pas seulement des compositeurs, mais pour les musiciens classiques en général, Satie est considéré comme un compositeur mineur. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, en effet, c'est pas un compositeur. Déjà, la virtuosité chez Satie, on peut dire qu'elle est quasiment absente. Après, faire sonner, notamment dans les pièces pour piano quatre mains, il y a un vrai travail. On se rend compte à quel point, dans le détail, dans la dentelle. Et en effet, il n'y a pas de virtuosité apparente, mais une grande sensibilité. Et déjà, de travailler le legato de la première Gymnopédie, il faut rien. Donc, on sait très bien que le minimum, le moins d'effets possible, c'est aussi une vraie difficulté. Mais en effet, il n'y a pas cet aspect spectaculaire. C'est en effet peut-être ce qui fait qu'on considère Satie comme un compositeur de seconde zone, enfin je ne sais pas, enfin en tout cas
mineur.
Oui, mineur, c'est ça. Mais pourtant, Debussy, on sait à quel point Debussy et Satie étaient proches et avaient une admiration respective, mais aussi avec de la jalousie, notamment de la part de Satie, qui a dit par exemple quand Debussy a écrit créé Péléas, qu'en fait il a fait tout fait, donc du coup il pouvait se retirer en quelque sorte, enfin voilà, donc une grande admiration et aussi une déception de pas peut-être avoir connu le succès, mais cette singularité en fait il l'a cultivée aussi, donc par moments il s'est un peu tiré une balle dans le pied parce que dès qu'il avait du succès il savait peut-être qu'en faire, enfin voilà, il avait du mal à gérer tout ça.
Toujours est-il que Debussy a tout de même orchestré la première et la troisième Gymnopédie de Satie. C'est dire quand même qu'il avait une certaine estime, en tout cas pour la musique de son ami. Comment vous avez conçu ce spectacle, ou plutôt comment l'avez-vous voulu dès le départ ?
La première des choses, c'était de donner la priorité à la musique. Donc de jouer les pièces entières, puisqu'on pourrait, voilà, on peut aussi construire un spectacle, et du coup en prenant des bribes, etc. Alors, c'est pas le cas pour tout. À des moments, on utilise aussi la musique de Satie. Lui a composé à la fin de sa vie les musiques d'ameublement. Donc, on ne joue pas les musiques d'ameublement, mais il y a aussi cette notion très, pour le coup, est-ce qu'elle est valeureuse ou non aux auditeurs d'en juger. Mais la musique peut être aussi d'accompagnement, donc comme ce qu'on aura aussi très rapidement tout au long du XXe siècle avec la musique de film. Donc, il y a déjà tout ça qui est en germe dans la musique de Satie. Donc, il y a ces deux aspects-là qui sont en jeu, c'est donner les pièces à entendre et les introduire, les accompagné en fait de textes qui seront dits par Muriel Benazeraf, géniale comédienne. C'est elle qui a choisi la plupart des textes. Avec nous, on a discuté de comment on avait, nous, des pièces principales qu'on avait très envie de jouer et autour de ces pièces, comment on pouvait raconter aussi un petit peu l'histoire de Satie.
Le but aussi, c'est de montrer celui que vous estimez être le vrai Satie, l'homme qu'il était dans la vie.
C'est les multiples facettes du personnage, en effet. C'était à la fois quelqu'un d'extrêmement triste, qui est mort dans le grand dénuement. Les amis de Satie qui décrivent l'appartement de Satie tel qu'on l'a découvert, voilà, avec deux pianos désaccordés, avec 14 parapluies identiques, avec une collection de faux cols, enfin des choses un peu invraisemblables comme ça. Des lettres aussi qu'il s'envoyait qui à lui-même, oui, ou certaines qu'il n'avait jamais ouvertes aussi. Dans ses correspondances, notamment avec son frère Conrad, on sait qu'il a eu une liaison avec Suzanne Valadon, qui pendant toute sa vie a été son grand amour, alors qu'en fait on se rend compte que la liaison a duré 6 mois à peine.
Et ça s'est très mal terminé.
Et ça s'est très mal terminé, mais en tout cas c'est très court, mais c'est quelque chose qui a complètement... Donc tous ces aspects en fait, à la fois très émouvants de cette personne, et l'humour que tous les pianistes qui ont joué Satie ont pu appréhender, puisqu'il y a des indications pour le pianiste, voilà, qui sont tout à fait soit fantasques, soit même c'est du surréalisme. Alors, il était plutôt dans le mouvement Dada, donc pré-surréaliste, mais il s'était passionné par toute cette mouvance intellectuelle. Et l'idée est vraiment de donner en fait à entendre et à replacer dans son contexte les œuvres musicales et donner des éléments de sa biographie. C'était un cancre au conseil, il s'est fait virer du conservatoire. Donc à un moment donné, on sort juste du phénomène où on donne les textes de Satie, mais on s'en extrait en, par exemple en lisant ses carnets de notes, notamment d'Ambroise Thomas du conservatoire de Paris.
À quoi ressemble le spectacle, en fait, sur scène? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est Satie? Vous êtes Satie à tour de rôle, suivant ce que vous allez jouer ou ce qui va pouvoir être dit sur le plateau?
Alors, on se sert d'une des répliques d'Éric Satie, parmi les écrits qu'il a produits, où il commence sa présentation en disant « Je m'appelle Éric Satie comme tout le monde ». Donc, Muriel est sur scène avec Stéphane et moi, et elle annonce la couleur au début. Elle dit qu'elle s'appelle Éric Satie, comme tout le monde, en nous regardant. Donc nous sommes en quelque sorte tous les trois Éric Satie. Les deux pianistes ne parlent pas, ils jouent. On est un petit peu comme deux personnages articulés qui sont articulés autour du piano, soit les deux autour du clavier, soit l'un ou l'autre. Et Muriel, donc du coup, interprète Satie, donc dit les textes que lui a produits. Donc il y a plein de références, soit c'est en effet de la correspondance, soit c'est, il y a tout un texte sur le phonométrographe, donc dit qu'il n'est pas musicien, mais qu'il mesure les sons. C'est un texte qui est très drôle. Et ensuite, Muriel, à des moments, joue un autre personnage, par exemple, notamment le commissaire de police qui raconte la déposition qu'il a pu prendre quand Éric Satie et Suzanne Valadon se disputent. Donc, qui raconte en fait cette dispute avec des éléments quand même un petit peu drôles. Donc, on rigole. Il y a vraiment des moments très drôles et des moments très émouvants à l'image de ce qu'est Éric Satie.
Spectacle que j'imagine, moi, burlesque et mélancolique, comme pouvait l'être Satie dans la vie, en tout cas pour ce qu'on en sait. Les pièces qui vont être jouées, parce que tout de même, au milieu de tout ça, avant tout, il y a la musique. Quelles pièces va-t-on entendre?
Alors, on va en entendre quelques-unes. Moi, j'ai un faible pour les Gnossiennes, des pièces que j'avais bien sûr travaillées assez jeune et qui me suivent depuis ma jeunesse, en fait, et que je continue de redécouvrir. Et de... Voilà, donc ça, c'est vraiment... On joue 4 des 6 Gnossiennes. On voudrait faire découvrir aussi le Satie des cabarets. On sait qu'il a travaillé pendant plus de 10 ans au cabaret du Chat Noir. Donc, on a un passage comme ça, un petit peu cabaret, qui est aussi humoristique. On sait que c'est aussi Satie qui a écrit le premier ragtime écrit par un Français de Piccadilly, donc qu'on joue aussi, ça c'est pour piano demain pour le coup. Donc il y a cet aspect un petit peu cabaret. Après, un aspect burlesque avec les embryons desséchés, donc ça c'est un titre absolument...
Embryons desséchés d'Holoturie.
Voilà, c'est ça. C'est un titre absolument terrifiant, mais qui fait référence donc à des mollusques, en fait. C'est des noms de mollusques, l'Holoturie, où là il y a une certaine parodie, on va dire, des cadences classiques, beethoveniennes, voilà, avec une cadence interminable, on connaît ces choses-là. Et les deux grands cycles de piano quatre mains, il y a donc les 3 morceaux en forme de poire, qui sont 7 au passage, et la belle excentrique.
Puis bon, il y a des titres comme Marche franco-lunaire, voilà, véritable prélude, flasque pour un chien, valse du mystérieux, baiser dans l'œil, cancan grand mondain. Enfin voilà, Éric Satie dans toute sa splendeur et son inventivité jusque dans les titres. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de pièces qui vont être jouées durant ce spectacle. Pas simple de choisir, mais j'ai finalement retenu celle qui donne son titre à votre création, Stéphane Delinca. Voici en plus, extrait des 3 morceaux en forme de poire, dans une version enregistrée il y a un peu plus de 30 ans par Anne Kefelec et la très regrettée Catherine Collard. En plus, extrait de trois morceaux en forme de poire d'Éric Satie, interprété par Anne Kefelec et Catherine Collard. C'est une des pièces que vous allez entendre lors du spectacle Piano en forme de poire, créé par Muriel Benazeraf, Stéphane Delinca et Stéphane Escoubet, du 28 au 30 mars au Théâtre du Pavé. La billetterie est en ligne sur le site www.théâtredupavé.org. Avant cela, plusieurs rendez-vous à noter sur vos agendas cette semaine. Jeudi 6 mars, les gambistes Vittorio Guglielmi et Christophe Urbanetz, ainsi que le luthiste Luca Pianca, sont en concert à 20h à l'église Saint-Jérôme de Toulouse pour le compte de la saison des Arts Renaissants. L'achat et la réservation des places se font sur le site www.art-renaissant.fr. Ce même jeudi 6 mars, toujours à 20h, l'orchestre de chambre de Toulouse accompagne la soprano Anaïs Constant à l'occasion d'un concert donné dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes à l'Instituto Cervantes de Toulouse. Informations et réservations sur le site web de cet établissement. Le samedi 8 mars, la mezzo-soprano Juliette May chante des airs d'opéra à l'amphithéâtre d'Espax de l'Université Toulouse-Capitole, accompagnée par l'ensemble orchestral Pierre de Fermat sous la direction de Paul Minicher. L'entrée est gratuite. Et je rappelle enfin que le Pink City Orchestra donne son concert de musique de film Les Étoiles du Cinéma le dimanche 9 mars à 17h au Casino Barrière de Toulouse. La billetterie est en ligne sur le site www.casinobarrière.com et vous avez aussi un lien direct sur le site www.pinkcityorchestra.fr. Tous mes remerciements à Serge Chauzy et Robert Pénavert qui ont encore une fois co-animé ce numéro à mes côtés. Merci également à Stéphane Delinca pour l'interview qu'il m'a accordée. Je remercie aussi Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et je remercie pour finir tous nos fidèles auditeurs. Très bonne semaine musicale à tous, il y a de quoi faire.